sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission À votre avis, présentée ce soir par Abdourahmane Dia. La journée internationale du travail est célébrée aujourd'hui à travers le monde, dans plusieurs pays. Des défilés sont organisés pour mettre en exergue les revendications des travailleurs. Le monde du travail est en ébullition sur le continent avec des grèves dans plusieurs pays, dans des secteurs stratégiques comme la santé ou l'éducation. D'un autre côté, le monde du travail est de plus en plus fermé aux jeunes qui constituent pourtant la majorité de la population en Afrique. Quelle solution face au sous-emploi dans votre pays? Nous allons parler de la situation des travailleurs en Afrique, de leurs difficultés, de leurs revendications, mais aussi de tous ces jeunes qui cherchent un emploi. Avec nous, depuis Niamey, nous avons Manu Bagué, secrétaire général de l'USTN, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, la plus ancienne centrale syndicale du Niger avec donc 48 syndicats affiliés. Bonsoir, monsieur Bagué.
Bonsoir, monsieur Abdourahmane.
Oui, nous avons également en direct d'Abidjan, Jean-Yves Abonga, porte-parole de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, en attendant d'avoir les auditeurs, nous allons démarrer avec vous. Comment déjà la fête du travail a été célébrée, disons, au Niger, Manu Bagué, d'abord?
Oui, merci bien, M. Abdourahmane. Comme à l'accoutumée, hein, depuis des années aujourd'hui, c'est une tradition. La fête du travail a été marquée surtout par des défilés des confédérations syndicales avec les différents syndicats professionnels où les travailleurs ont fait des démonstrations de force, de leurs capacités, de leurs moyens de travail et surtout ont brandi en tout cas des pancartes et des banderoles avec leurs points de revendication pour l'amélioration des conditions de travail. Il faut dire qu'au Niger, nous avons 13 confédérations syndicales et pratiquement toutes les confédérations, à l'exception de nous qui avons défilé avec une d'elles, nous étions deux, les autres, toutes les autres ont décidé individuellement, isolément.
D'accord. Aujourd'hui, le Niger connaît une série de grèves, notamment dans l'enseignement. Est-ce que c'est un sujet qui est ressorti, qu'on a senti aujourd'hui et quelle a été un peu la réaction des travailleurs?
Absolument. Il faut dire que dans tous les secteurs socio-professionnels, hein, nous vivons une situation pratiquement difficile, hein, vous savez, avec la morosité économique internationale aujourd'hui. Donc la particularité de l'école, c'est que l'école nigérienne est malade. Je crois que les deux, trois derniers mois ont fait suffisamment d'étalage, en tout cas de l'état de l'école nigérienne, avec d'abord les grèves des syndicats de l'éducation, ensuite le mouvement scolaire et étudiantin lui-même. Donc vraiment, c'est une situation suffisamment préoccupante et qui est ressortie dans pratiquement tous les discours que les confédérations syndicales ont rendu publics. D'accord. Et dans le cahier des doléances également qu'on a remis au ministre en charge de l'Emploi.
D'accord, on pourrait revenir sur tout cela plus tard. Jean-Yves Abonga, en Côte d'Ivoire également, comment est-ce que la fête a été célébrée aujourd'hui? J'imagine qu'il y a aussi des défilés, non?
Oui, comme au Niger aussi, il y a des défilés. Et comme c'est de tradition, les travailleurs qui sont regroupés ici dans cinq grandes centrales syndicales se sont retrouvés pour faire des manifestations dans des zones bien précises avec des banderoles qui relèvent les préoccupations des travailleurs. Et après cela, on s'est retrouvés donc au palais présidentiel pour justement présenter nos doléances au chef de l'État directement et attendre son discours qu'il a prononcé tout à l'heure.
D'accord. Justement, mon collègue qui présentait les informations tout à l'heure parlait de l'appel du président Ouattara qui demande une trêve sociale. Comment est-ce que vous réagissez à cet appel?
Bon, je voudrais indiquer qu'une trêve sociale ne se décrète pas. Elle se négocie. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, depuis 2012, il n'y a pas eu véritablement de dialogue social instauré par le gouvernement. Ce qui fait que les crises ont été donc constaté et de manière très récurrente sur un certain nombre de préoccupations qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent. C'est ce qui a expliqué justement que l'ensemble des fonctionnaires ait déclenché pour la première fois dans l'histoire de Côte d'Ivoire une grève historique de 3 semaines pour interpeller le gouvernement sur les préoccupations qui minent donc des fonctionnaires de Côte d'Ivoire.
D'accord, merci. Vous restez en ligne tous les deux. Nous avons déjà un premier auditeur de la Tanzanie, Amani Yao. Amani, lui, aborde déjà le deuxième aspect de notre question, c'est-à-dire l'embauche des jeunes. Amani, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est votre point de vue? Vous proposez une solution pour l'embauche des jeunes.
Oui, je vois, parce que vous savez, beaucoup de jeunes africains sont désœuvrés et les dirigeants politiques, souvent, ils utilisent les jeunes lors des campagnes électorales. Ils les mobilisent, ils demandent des voix aux jeunes. Et vous savez, dans beaucoup de pays africains, les jeunes, c'est la grande majorité. Alors, pour aider ces jeunes à avoir d'emploi, il faut industrialiser le pays. Quand le pays sera industrialisé, alors là, il y aura beaucoup d'emplois et beaucoup de jeunes seront engagés. Et en plus, instaurer un bon système de retraite. Parce que je vois dans plusieurs pays, il y a des ceux qui n'y a pas un bon système de retraite. Il y a des pays où vous trouverez des gens qui travaillent à 75 ans, 80 ans, ils sont toujours là au bureau. Ils ne laissent pas la place à d'autres personnes. Alors les gouvernements doivent mettre un bon système de retraite afin d'aider les jeunes à avoir de l'emploi dans les pays.
D'accord, je suis sûr que nos deux invités auront des choses à dire sur votre interpellation et votre proposition. Mais avant de leur donner la parole, nous allons retrouver un autre auditeur de Djibouti, Omar Boulalé. Omar, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous dites sur notre page Facebook que c'est difficile de trouver un emploi en raison du manque de méritocratie, c'est votre mot, de favoritisme, et vous parlez également de népotisme. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un problème qui se pose en Afrique, très important, parce que les gens ne sont pas souvent recrutés au niveau étatique, mais aussi privé par leur méritocratie, c'est-à-dire leur qualification, leurs compétences. Souvent, c'est par favoritisme ou par le clientisme qu'on recrute et qu'on donne des places ou des postes aux chômeurs et à ceux qui sont en attente d'emploi. Donc c'est quelque chose qui est récurrent et qui touche les jeunes africains. Donc c'est qui pose problème et qui entraîne l'augmentation, mais même aussi l'immigration clandestine, c'est ce qui va enregistrer aussi.
D'accord. Merci beaucoup Omar Boulalé depuis Djibouti. Alors Manu, d'abord, ces deux auditeurs ont évoqué beaucoup de thèmes. Ils parlent de l'industrialisation, pour, pousser les jeunes vers le marché de l'emploi, mais ils parlent également d'un système de retraite qui n'est pas adéquat. Quelle réaction ?
Oui, absolument. L'industrialisation est indispensable pour résorber, en tout cas, le chômage des jeunes, qui est vraiment un véritable problème dans le pays, hein. Donc vous savez, l'industrialisation a beaucoup de conditions, mais il faut beaucoup plus priser sur l'entrepreneuriat, la formation professionnelle pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Nous comptons beaucoup plus sur cet aspect-là que sur l'industrialisation à proprement parler. Parce que quand je prends l'exemple du Niger, le réservoir véritable des emplois des jeunes, c'est dans les sociétés minières et au niveau également des industries extractives du pétrole, de l'or. Et aujourd'hui, ce secteur est en crise véritablement parce que tout simplement, c'est des licenciements, c'est des chômages techniques et autres là qui sont en cours. Et donc, vraiment, c'est un sérieux problème que nous vivons. Il y a eu des licenciements en décembre. Donc, on compte beaucoup plus. En tout cas, chez nous, le gouvernement a promis de créer 50 000 emplois par an, mais dans la pratique, on se rend compte que c'est beaucoup plus des emplois précaires que des emplois véritablement durable, car pratiquement la majorité des concours organisés pour recruter des jeunes au niveau de la fonction publique ont été obligés d'être annulés, tout simplement parce que, comme quelqu'un l'a dit, la procédure d'organisation des concours et la publication des résultats sont pratiquement truffées d'erreurs, et le gouvernement s'est lui-même senti dans l'obligation d'annuler parce que, tout simplement, on n'a pas respecté le droit des uns et des autres. Et donc, c'est un problème assez sérieux pour lequel nous pensons que mettre l'accent véritablement sur la formation professionnelle des jeunes et l'entrepreneuriat pour les aider à avoir des micro-entreprises qui puissent être porteuses, je crois que ça, c'est beaucoup plus adapté à nos industries, à notre environnement économique.
D'accord, merci beaucoup. Jean-Yves Abonga, le deuxième auditeur aussi parle un peu du népotisme ou du favoritisme qui, en fait, bloque un peu le recrutement. En fait, le système de retraite lui-même pousse beaucoup à rester parce que la retraite en Afrique peut être difficile pour beaucoup, ce qui aussi constitue un handicap pour l'embauche des jeunes.
Et effectivement, je voulais intervenir sur le système de retraite, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a eu une réforme en 2012 que nous avons décriée, justement. Cela pourrait effectivement freiner l'embauche des jeunes.
Est-ce que vous pouvez me donner, disons, les grandes lignes de cette réforme que vous opposez?
Oui, il faut indiquer que la réforme qui a été initiée par le gouvernement avait pour objectif de réduire les charges salariales au niveau donc de la retraite. C'est ainsi que une veuve qui survivait devrait attendre donc la date de départ à la retraite de son mari qui est décédé avant de pouvoir bénéficier donc de sa pension de réversion. Il y avait aussi le prolongement de la date de départ à la retraite jusqu'à 65 ans pour la catégorie des fonctionnaires du grade A7 au grade A4 et jusqu'à 60 ans pour ceux qui sont du grade inférieur. Tout cela fait que le travailleur reste longtemps en activité. Donc on ne peut pas, par conséquent, embaucher de nouvelles personnes qui viennent.
D'accord.
Bon, il y a aussi, au niveau de la réforme, toujours, il y avait aussi le retrait du capital décès qui était reversé à la famille ou aux ayants droit du fonctionnaire décédé qui avait été retiré. Bon, on a donc demandé au gouvernement de tout réintégrer et Dieu merci, et ça a été fait maintenant. Mais je voulais insister sur l'adéquation de la formation emploi.
Oui,
qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, mais dont les diplômes ne correspondent pas à un poste défini dans le monde du travail. Donc il y a un travail à faire pour le recensement de différents emplois disponibles dans le tissu économique, et en fonction de ces différents postes disponibles là, on pourrait donc concevoir des programmes de formation et recruter des jeunes qu'on va former et à la sortie qui vont correspondre donc au poste de travail qui est dans le tissu économique. Et ce qui est fait actuellement au niveau de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, nous travaillons à mettre en place donc les branches professionnelles qui vont permettre de constituer toute la base de données au niveau du tissu économique et faire le transfert vers l'école pour qu'on puisse justement former ces jeunes Ivoiriens-là afin d'occuper un emploi disponible au niveau du tissu économique.
D'accord, merci Monsieur Abonga. Justement, je pense que notre auditeur de Bamako, Diarra Kanyoumé, semble évoquer cette situation. Monsieur Diarra?
Oui, bonsoir, La Voix d'Amérique.
Oui, donc vous dites que plusieurs Maliens sont au chômage et avec leur diplôme. Vous vous demandez pourquoi? C'est un peu ce que disait notre ami d'Abidjan, Jean-Yves Abonga.
Oui.
Qu'il faut peut-être une formation plus adéquate.
Oui, effectivement, à mon avis, je pense qu'aujourd'hui, je vous souhaite d'abord bonne fête des travailleurs, premièrement à tous les travailleurs.
Merci,
je pense qu'aujourd'hui, par rapport à les droits des travailleurs, aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de difficultés dedans. Par rapport, il y a des gens aussi, ils ont dans le gouvernement, ça implique au moins 30 ans, ils ont dans le bureau, donc ils ne laissent pas les places à les autres. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chômage dans mon pays, au Mali, surtout à Bamako. Il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Donc, je pense que le gouvernement
doit faire... Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas céder ou bien c'est parce que l'âge de la retraite est à 60 ou 65 ans? Parce que demain aussi, les jeunes qui demandent à ce que ces plus anciens cèdent la place vont se retrouver, dans la même situation. Est-ce que les gens doivent partir sans être vraiment... Alors qu'ils sont encore très actifs, qu'ils ont les capacités de faire le boulot?
Bon, c'est pas affaire de capacité de faire le boulot. Donc, si tu as fait au moins 30 ans ou bien 75 ans, tu es dans le gouvernement, tu dois partir en retraite. Donc, si son date de retraite est arrivée, donc il doit partir. Mais si tu es toujours en place, donc je pense que ça va devenir beaucoup de problèmes, ceux qui ont derrière. il y a beaucoup de jeunes, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur effort pour trouver leur diplôme, pour trouver place dans le gouvernement. Mais si les anciens ne cédaient pas la place, donc je pense que les jeunes aussi vont se décourager pour continuer leurs études aujourd'hui, surtout dans mon pays, à Bamako. Voilà, sinon, à mon avis, je pense que et doit céder le pouvoir. Il faut que les jeunes aussi doivent gagner place dans le gouvernement.
D'accord, on a compris votre point de vue, Diarra Kanyoumé. Nous avons un auditeur de la République démocratique du Congo, Katenge Kakonde. Vous nous entendez?
Oui, je suis à l'écoute et je me suis très bien.
D'accord. Vous semblez mettre en cause la bonne gouvernance. On vous écoute.
Affirmatif, d'abord, je commence à souhaiter un bon fait de travail à tous les travailleurs du monde, à l'exception du Congo, parce qu'au Congo, il n'y a plus de travail. Mmh. Et puis, je vais stigmatiser le problème de bonne gouvernance, c'est quand je vois, sur le plan pratique, ce qui se passe au Congo, le sous-emploi favorisé par le gouvernant, avec la corruption qui se passe, quand je vois les Indo-Pakistanais qui traitent les Congolais comme des valets, alors que les autorités sont en train d'appuyer ces Indo-Pakistanais, ces Chinois, et qui sont en train de maltraiter ces soi-disant travailleurs sans salaire, sans quoi, une mauvaise gouvernance, c'est ce qui me laisse à croire que s'il y a une bonne gouvernance, je pense que le tout va se traiter en respectant les taxes qui régissent le travail, qui régissent le recrutement et tout ça. Et je pense que le tout ira bon train. Mais ce qui se passe par manque de bonne gouvernance, de bonne volonté politique, et tout est mis en moule dans notre pays. Et je pense que cela se résume même dans la plupart des pays africains, parce qu'il y a cette manque de bonne gouvernance. Et les jeunes sont en train de crier, ils sont au chômage, ils ne savent pas quoi faire, alors que les hommes politiques qui les dirigent sont là, ils roulent carrosse, ils voyagent, ils font quoi que ce soit, parce qu'il y a la corruption des riches qui exploitent travailleurs. Alors merci.
D'accord. On reste en République démocratique du Congo. Monsieur Nzaï, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, quel est votre point de vue sur ce débat? Vous avez entendu nos invités, également d'autres auditeurs. Quelle est votre réaction?
Bon, mon souci était vraiment d'intervenir dans votre émission par rapport au travail en Afrique, particulièrement ici en République démocratique du Congo. La réalité que nous sommes en train de vivre ici, surtout nos jeunes, c'est une autre réalité parce que avoir du boulot ici en RDC, c'est pas chose facile. Parce que dès que je suis en train d'intervenir comme ça, il y a ceux qui vont me donner une raison, qui sont des jeunes. Il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués, beaucoup de diplômés qui finissent leurs études, mais qui ne se retrouvent pas sur le marché d'emploi. Il y a certains aussi, s'ils se retrouvent dans des entreprises, peut-être par recommandation de quelqu'un, ou soit être parrainé par quelqu'un d'autre, ou encore, on vous recommande, on vous demande même de l'argent par ceux qui recrutent pour que vous soyez embauchés. Ça veut dire que le travail jusqu'ici, pour nous les jeunes, n'est pas vraiment assuré. Si vous voulez peut-être faire un sondage dans des entreprises, vous verrez que peut-être sur 100% de la population jeune de la RDC, vous verrez qu'il y a 10% peut-être, ou 15% si je ne m'abuse, de ceux qui travaillent comme il faut. Mais vous allez voir que la plupart, vous allez toujours entendre, pouvait être. Il y a même des sociétés qui recrutent, là, quand ils vous recrutent, vous faites le tout possible. Après avoir terminé, vous vous rendez compte que il y a d'autres personnes qui sont engagées à votre place. On ne comprend au juste absolument rien. Le travail aujourd'hui en RDC n'est pas facile. Peut-être si seulement on restructurait les choses, peut-être nous pouvons espérer un travail meilleur ou bien se retrouver peut-être dans une entreprise en train de travailler et avoir un meilleur salaire.
D'accord, voilà, merci. Mon intervention. Merci beaucoup, M. Nzaï, depuis la République démocratique du Congo. Alors, on retrouve nos deux invités, Manu Bagué et Jean-Yves Abonga. Manu, d'abord, depuis Niamey, les auditeurs qu'on a entendus parlent de l'opacité dans le processus de recrutement, de la corruption qui revient encore, des mauvaises conditions de travail, notamment dans le secteur informel. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? Et ce sont surtout des jeunes, en fait, qui cherchent aussi de l'emploi.
Oui, il faut reconnaître que c'est la triste réalité aujourd'hui du marché de l'emploi. Hein. J'ai tantôt parlé des concours de recrutement à la fonction publique qui ont fait l'objet d'annulation au Niger, tout simplement parce qu'il y a un trafic d'influence important. Il y a de la corruption, il y a beaucoup de pratiques malsaines qui entourent le concours. Mais également, comme beaucoup l'ont dit, les Indo-Pakistanais et les autres Chinois qui s'installent, en tout cas aujourd'hui, leurs entreprises, quand ils emploient des gens, tous les travailleurs se plaignent beaucoup de leur maltraitance et autres conditions qu'on les impose. Il faut dire que c'est une véritable crise du marché de l'emploi aujourd'hui. Et le drame, c'est que les institutions financières internationales ont tendance à imposer à nos gouvernants le rallongement de l'âge de la retraite. Et ça, c'est un paradoxe, c'est vraiment dommage. Pendant que les jeunes diplômés sont là sur le marché, ils attendent à être employés, ils n'ont pas d'emploi. On veut rallonger l'âge de départ à la retraite des anciens qui sont là, qui devraient laisser la place à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et c'est vraiment dramatique, c'est une situation qui est pratiquement générale dans nos différents États, et c'est inacceptable. Je crois que le monde du travail doit se battre, les jeunes doivent se battre pour empêcher tout ça.
Et il faut aussi se battre pour justement que ceux qui travaillent aillent à la retraite, mais dans des conditions décentes.
Dans des conditions décentes, parce que la retraite aussi, c'est pas la prison, c'est pas aller à la retraite juste à la mouroir. Au Niger, par exemple, l'espérance de vie est de 62 ans. Quand la Banque mondiale ou le FMI veulent amener le gouvernement à rallonger l'âge de la retraite à 65 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de retraités en fait, on va plutôt encourager l'accumulation des fonds de pension, et je crois que ça c'est une épargne qui n'est pas décente pour le monde aujourd'hui. Donc il vaut mieux avoir une retraite digne et aller à un âge où on est assez robuste pour bien se préparer pour la crise et permettre aux jeunes aussi qui sont sur le marché de l'emploi d'accéder à des emplois décents.
D'accord. Jean-Yves Abonga, vous pouvez réagir sur cet aspect si vous le souhaitez, mais je voulais quand même qu'on aborde, on est presque à la fin de l'émission, les travailleurs qui sont dans l'informel. Vous représentez des fonctionnaires, certes, vous travaillez pour l'amélioration de leurs conditions de travail, mais ce secteur informel également emploie des millions de personnes. Est-ce que vous avez une pensée pour eux et peut-être une idée sur comment les aider à accéder à de meilleures conditions de travail également?
Oui, nous y pensons parce que ce sont des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui méritent aussi d'avoir un cadre de travail adéquat. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement 80% des Ivoiriens qui sont dans le secteur informel. Donc aujourd'hui, l'État gagnerait à structurer, à organiser ces travailleurs-là qui sont pour nous très importants parce que c'est eux qui apportent ou créent des petits services au profit donc de la population ivoirienne. Donc ça nous intéresse particulièrement. C'est vrai que de ma casquette de responsable syndical de fonctionnaires, bon, on n'a pas encore vraiment tous les agréments pour pouvoir nous pencher véritablement sur la cause. Mais dans un cadre beaucoup plus global, on pourra donc apporter des éléments de réponse plus précis, quoi.
D'accord, nous allons rapidement aller au Tchad, Zaché Mouamou. Bonsoir. En 30 secondes, quelle réaction?
Oui, monsieur, bonsoir.
Oui.
C'est depuis Djamena, monsieur Mouamou Zaché. Vous voulez participer à votre émission?
Oui, on vous écoute rapidement, 10 secondes. On est presque à la fin de l'émission.
Oui, ici, au niveau du Tchad, les conditions de travail sont énormément difficiles. Le plus souvent, les jeunes ont fini leurs études et ils sont dans le marché des emplois.
Ici, malheureusement,
c'était un peu difficile.
Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Manu Bagué depuis le Niger, merci. Jean-Yves Abonga, merci. Merci à tous les auditeurs. Au revoir.